J'ai beaucoup de personnes dans mon entourage qui pensent de la même façon que moi. Puis qu'on trouve que Trudeau leur laisse trop, genre, une facilité d'impacter notre propre culture québécoise au point de changer. On n'a plus de mettre les croix, on peut plus mettre les affaires.
Et quand vous dites on peut plus mettre des croix, à quoi vous faites référence exactement?
L'Église, surtout, je veux dire les hôpitaux.
Mais dans les faits, il n'y a jamais un seul musulman au Québec qui a demandé de retirer une croix quelque part. C'est jamais arrivé, en fait.
C'est jamais arrivé, hein. On a tous été biaisés par ça. Mais encore là, je pense que la corruption Internet, je pense que ça te corrompt solide, quand j'y pense, là. Parce que vos points de vue, vous m'amenez, c'est vrai. Tu sais, si vous me dites que ils ont pas apporté ça, puis que dans le fond, moi, j'ai cru des choses qu'il fallait pas, puis que là, je m'enligne vers un chemin raciste, mais que dans le fond, je suis juste ignorant, ça se pourrait, là.
Alors, Marie-France, notre collègue de Québec, Jean-Simon Buis, a retracé justement l'un des auteurs des propos. Comment les décrire?
Ville, haineux, immonde, raciste, islamophobe.
Exactement, qui ont été publiés et qui ont ensuite été retirés hier. Alors, c'était ces commentaires. Et vous voyez que, parmi les choses intéressantes que Jean-Simon Buis nous a dites, c'est que cet auteur, il n'a que 21 ans. Mm-hmm. Ce jeune homme n'a que 21 ans et il admet avoir des idées préconçues, sans trop savoir de quoi il parle.
Ben oui, il confondait djihadiste et syrien. Et pour lui, c'était la même
chose. J'ai même entendu judaïsme confondu avec djihadiste.
Ah oui,
et il avouait qu'il trempait dans un milieu où les gens l'influençaient autour de lui.
Exactement.
Ça, c'est important, ça.
Oui, tout à fait. Alors, c'est vraiment à dénoncer. C'est des caractères, des commentaires qui sont tout à fait honteux, une méchanceté qui relève quasiment de la maladie mentale parce que les gens normaux, devant ce drame hallucinant, sept enfants qui vont de 4 mois à 15 ans brûlés vifs. N'importe qui a le cœur brisé. TVA, donc, a laissé ça quelque temps sur son site et s'est excusé par la suite. Certains disent, Paul, au nom de la liberté d'expression, il faut les laisser. TVA n'avait pas à modérer ça, avait à les montrer, parce que justement, il faut qu'on voit, il faut qu'on entende des Jérémy, il faut qu'on identifie la haine, la xénophobie, il faut les publier. Il faut savoir que ça existe, parce que quand tu le sais pas, à un moment donné, ça te pète d'en face. Dans ce cas-là, il y a eu un choix de publier, de laisser aller. Peut-être aurait-il fallu avoir un modérateur sur le site, parce que ça peut déraper assez vite. Et comment dire? Dans le groupe Québécois, il y a des chroniques qui, des fois, sans être racistes, attisent et attire ce genre de commentaires-là. Alors, ça a un effet collatéral de répandre des messages de haine. J'en vois souvent de ce type de messages-là sous certaines chroniques. Alors, peut-être que TVA aurait dû se montrer plus prudent, sachant quel genre de matériaux il manipule régulièrement. Peut-être qu'on n'aurait pas dû les publier aussi par politesse et par décence. Il y a une famille décimée, il y a une communauté, il y a une ville, Halifax, qui est en deuil. Est-ce qu'il fallait donc les publier au moment, justement, du deuil, au moment du recueillement, où le moment est à la solidarité? Puis en même temps, comme je te disais, si on ne publie pas, si on bouche la soupape, on muselle la haine et ça ressort, et souvent en violence. Il faut savoir que ça existe, il faut savoir qui pratique ça, de quel genre de milieu avec lequel se tient tous les Jérémy de ce monde et comment ça s'exprime. Il faut pas se fermer les yeux puis après ça dire qu'on est surpris puis ah mon Dieu, ça existe ce genre d'affaires-là. Peut-être aurait-il fallu aussi sanctionner. Ce sont vraiment des caractères haineux. Puis après ça, on se retrouve avec des phénomènes comme la meute. Ça arrive pas dans une soucoupe volante. Ça naît dans une société, ça s'est exprimé sur les réseaux sociaux, puis tout à coup, ça existe dans les rues. Mais en même temps, ne pas mettre les commentaires sur la page, est-ce que ce serait une si grande perte pour la démocratie? Ce serait plutôt un gain pour la décence? Bref, Paul, est-ce qu'il faut ignorer ou publier ce genre de commentaires-là? C'est extrêmement difficile de trancher. L'évidence, c'est qu'il faut dénoncer.
Mais c'est pas seulement TVA. Il arrive, même sur le site de Radio-Canada, par
absolument,
moment.
Absolument, oui, oui.
Quand le sujet est aussi sensible, aussi brûlant.
Oui.
Et il t'arrive de voir des commentaires, même sur d'autres sites, là, du même genre, qui n'ont pas été filtrés
exactement.
Ou interceptés.
Oui, oui,
bon.
Oui.
Je sais même pas si on doit les filtrer ou les intercepter. C'est ça l'affaire.
Mais tu vois, c'est ça, il y a vraiment des arguments des deux côtés. Je le sais pas, c'est difficile de trancher. Moi, vivre dans un monde de licornes, j'aime pas ça vraiment, sauf que la contrepartie, c'est vraiment de passer notre temps à dénoncer, à être découragé d'une partie de nos concitoyens, à déplorer, à constater une perte d'humanité, parce que c'est vraiment ça. Quand on a lu quelques-uns des commentaires, c'est de la barbarie. C'est vraiment de la barbarie. Alors, mais à tout le moins, un gros groupe comme TVA, qui a les moyens quand même, devrait avoir un modérateur sur ses sites. Vraiment. C'est de la simple responsabilité de la part d'une entreprise de presse. On fait attention à ce qu'on manipule. Si on décide de les laisser passer, on met un commentaire, on dit quelque chose, mais on n'envoie pas ça comme ça, tout nu dans l'univers. Il y a vraiment... TVA s'est excusé, mais un peu trop tard.
Alors, selon l'Institut québécois de la statistique, il y a un exode, mais ça, il me semble que ça fait longtemps qu'il y a un exode vers le 450,
oui.
Mais celui-ci s'accélère.
Exactement.
En ce moment.
C'est le pire bilan cette année, 24 000 citoyens que Montréal a perdu. C'est le pire chiffre en 10 ans, mais ça fait vraiment depuis 2010 qu'il y en a eu, là, depuis, je te dirais, une quinzaine d'années, mais depuis 2010, ça s'accélère. Évidemment, on connaît assez bien les raisons. Le prix médian pour une maison unifamiliale à Montréal est de 480 000, sur la rive sud 318 et dans la couronne nord 267. On sait que beaucoup de jeunes familles qui quittent, justement, ce sont surtout elles qui quittent, veulent de l'espace, veulent une cour, veulent du calme pour leurs enfants. Ce qui se construit à Montréal, on le voit, c'est des condos de 750 pieds carrés, donc une chambre à coucher. Et puis les villes de banlieue ont souvent des politiques ou des offres de services qui attirent les familles. Donc, argent et qualité de vie, ce sont les raisons. Sauf que ça coûte de plus en plus cher d'habiter à Montréal, habiter dans la ville-centre. C'est de plus en plus pour les plus fortunés, et j'inclus là-dedans les classes moyennes aisées, parce que pour se payer une maison à 480 en montant, il faut quand même avoir les moyens. On sait que le parc locatif est de plus en plus détérioré, donc y habitent les plus pauvres de notre société, les nouveaux arrivants aussi qui en font partie. Et la réalité de Montréal, c'est qu'il y a de plus en plus de villages, le plateau Mont-Royal, Rosemont, Villeray, Annecy, ce sont des villages ou des ghettos. C'est pas une ville homogène, c'est vraiment des espèces de morceaux comme ça qui se côtoient et qui ne se parlent pas tout le temps. Et ça a des effets donc sur le tissu urbain. Je t'avais déjà parlé de la langue à Montréal, le français qui décline. Il y a maintenant un tout petit peu plus que 50% des gens dont la langue maternelle n'est pas le français. On y parle vraiment beaucoup l'anglais aussi. Et les jeunes familles francophones quittent pour les couronnes, pour les banlieues. Donc, ça affecte le dynamisme, ça affecte la langue française, ça a vraiment un effet sur notre tissu social. Montréal s'enrichit de plusieurs cultures, mais s'anglicise également. Elle se coupe du reste du Québec. On ressemble plus du tout au reste du Québec, ni politiquement, regarde notre manière de voter aux dernières élections, ni économiquement, ni socialement, ni culturellement. Et puis, les couronnes, les premières couronnes, les plus près, le sud de l'île de Laval, Longueuil, de plus en plus vivent avec la réalité montréalaise, des prix qui augmentent, et aussi elles accueillent une bonne partie de l'immigration maintenant, particulièrement à Laval. Les vrais, entre guillemets, banlieues commencent aujourd'hui à la troisième couronne et elles ont de plus en plus tendance à se développer en autarcie. Il y a une offre de spectacle extraordinaire dans les banlieues, des belles salles de spectacle. On travaille dans les banlieues, il y a vraiment des jobs, des industries, des bureaux qui s'installent, les institutions de savoir, des filières des universités, les cégeps existent en banlieue. Plus besoin de venir à Montréal. Et souvent, il y a des gens qui habitent en banlieue et qui travaillent en banlieue, qui passent d'une banlieue à l'autre, plus besoin de venir dans la ville-centre. Ça, c'est un phénomène...
C'est un phénomène qui va s'accélérer. À part ça, lorsque le travail à la maison, le télétravail va être en progression. Parce que ça, c'est inévitable. Il va y avoir une progression remarquable du télétravail. Alors déjà,
Parce qu'on a les outils maintenant.
Exact. Ils n'ont plus de raison de venir ici au centre-ville,
exactement,
à Montréal.
Exactement. Et d'autant que Montréal, nous, on aime bien Montréal. On y travaille. Moi, j'y habite. C'est une ville scintillante, étincelante, très dynamique, très énergisante. Mais c'est pas tout le monde qui aime Montréal. Montréal effraie un certain nombre de personnes ou tarne et exaspère une autre partie de la population qui est obligée d'y venir pour travailler. Donc, tout le monde ne rêve pas de vivre à Montréal et tout le monde, une grande partie des gens ont très hâte d'en sortir puis d'habiter ailleurs. Donc, on est de plus en plus perçu comme une bête étrange et pas que de la part de Québec, de la Baume-Land qui traditionnellement a une dent contre Montréal. C'est vraiment un clivage avec le reste du Québec. Alors, comment stopper l'hémorragie? C'est impossible parce que le prix et la valeur des maisons ne baissera pas, parce que les banlieues ont des projets pour les familles, des politiques pour les familles que celle de Montréal, celle de Projet Montréal ne peut pas accoter. C'est pas assez fort comparé à l'attrait des banlieues.
Alors Marie-France, voilà. Justement, je t'invite à demeurer à l'écoute parce que Pierre-Yves McSween va reprendre là où tu laisses.
Oui, oui.
C'est-à-dire qu'il va parler des coûts de renonciation, justement.
Oui.
La métropole Paul qui a perdu l'an dernier près de 24 000 citoyens, le pire bilan en 10 ans. Mais lui, il va regarder l'aspect comptable de l'affaire.
Ben, j'ai très hâte d'entendre ça parce que l'argent est vraiment, vraiment, vraiment au cœur de tout ça.
Merci Marie-France. À demain vendredi.